Le journal par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. 2500 enseignants manquent à l'appel en cette rentrée scolaire. Un chiffre donné par la ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, en pleine crise des vocations. Les explications d'Akin Kasmi dans un instant. L'école française est-elle permissive ? Non, répond le chercheur Julien Garic, qui insiste sur l'importance de la sanction immédiate dans notre système scolaire. Le décryptage de Chloé Le Prince dans ce journal. Sur un siège éjectable, François Bayrou se fâche avec Giorgia Meloni. Le Premier ministre accuse l'Italie de pratiquer le dumping fiscal. Son homologue italienne lui a répondu sèchement. L'avion de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, victime d'un brouillage GPS en Bulgarie. Bruxelles soupçonne la Russie d'être derrière cet incident, assimilé à une ingérence de Moscou. C'est un peu l'heure des aveux pour la ministre de l'Éducation nationale en ce jour de rentrée scolaire. Elisabeth Borne a reconnu aujourd'hui qu'il n'y aurait pas un prof devant chaque classe cette semaine, alors que près de 12 millions d'élèves ont repris les cours ce matin. En déplacement dans une école du 15e arrondissement de Paris, la ministre a évoqué, je cite, l'équivalent de 2500 professeurs manquants. C'est moins que l'an dernier, s'est-elle empressée d'ajouter. Tout comme ses collègues du gouvernement, Elisabeth Borne est une ministre en sursis. À une semaine maintenant de la chute probable de François Bayrou à l'Assemblée, ce qui rend peut-être sa parole plus libre sur une question sensible. Akin Kasmi, bonsoir.
Bonsoir Stanislas Vazak.
15% des postes d'enseignants n'ont pas été pourvus au dernier concours de recrutement et c'est dans le second degré que la pénurie est la plus importante, Akin.
C'est surtout en français, en maths et en langue vivante que la pénurie d'enseignants est la plus importante. Une pénurie qui s'explique en grande partie par la réforme des groupes de besoins en français et en maths en 6e et en 5e qui nécessite d'avoir beaucoup de professeurs. Olivier Beaufrère, secrétaire général adjoint du SNPDEN.
La certitude, c'est que, comme d'habitude, il y a des territoires qui peuvent être plus compliqués, peut-être plus éloignés, moins attractifs, et puis peut-être également des formations professionnelles peut-être plus en difficulté, en pénurie. A priori, bien sûr, avec le choc des savoirs en 6e, 5e, toujours des besoins en lettres et en mathématiques.
Un manque d'enseignants que l'on retrouve également dans la filière Bac Pro, comme l'a constaté ce matin Carole Zerbib, proviseur du lycée Vauquelin à Paris.
J'ai une professeure d'anglais qui a été affectée, mais qui ne s'est pas présentée sur son poste et qui n'est pas venue aujourd'hui. Donc je ne sais pas qui fera cours d'anglais à mes élèves de lycée professionnel dès la reprise des cours.
Mais pour maintenir ouvertes ses classes à la rentrée, la chef d'établissement a également recours massivement aux contractuels pour ces sections industrielles.
Dans les disciplines proposées par mon établissement, les concours de recrutement sont fermés depuis de nombreuses années. Donc nous avons recours à des contractuels que nous trouvons la plupart du temps par des petites annonces auprès de France Travail.
De son côté, Elisabeth Borne espère une amélioration d'ici la fin de la semaine grâce à la forte mobilisation des rectorats.
Akin Kasmi, merci. À noter que les élèves des Bouches-du-Rhône et du Var n'effectueront que demain mardi leur rentrée scolaire. Les autorités justifient ce report par les intempéries qui touchent aujourd'hui ces deux départements placés en vigilance orange. Pas de rentrée non plus ce matin à l'école primaire Joliot-Curie de Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne. Cette fois en raison d'un incendie criminel qui a endommagé hier soir le hall d'entrée de l'établissement. Le retour en classe des 320 élèves aura lieu jeudi au plus tôt. En ce jour de rentrée scolaire, arrêtons-nous un instant sur une question récurrente. Certains parlent même d'un véritable préjugé. L'éducation nationale française est-elle laxiste ? Bonsoir Chloé Le Prince.
Bonsoir.
Bienveillance molle, perte du sens de l'autorité. En France, on entend souvent dire que la communauté scolaire est mal gérée, qu'elle serait trop permissive. En réalité, Chloé, l'éducation nationale valorise plutôt la sanction réelle et immédiate.
Oui, la France se distingue à l'échelle des pays de l'OCDE, par exemple, en revendiquant une approche punitive des problèmes de comportement en classe, et notamment en excluant les élèves de cours ponctuellement. L'école française punit beaucoup ses élèves, elle les punit davantage, mais surtout elle les punit plus sévèrement que ne le font les autres pays. Et ce, même si les enseignants français, eux, croient moyennement à l'efficacité des punitions, c'est ce qu'on voit dans les enquêtes, mais c'est leur droit. Exclure un perturbateur, ça fait partie de la liberté pédagogique. En janvier 2024, le Conseil supérieur des programmes préconisait justement, je cite, « le rétablissement de sanctions réelles et immédiates pour les élèves perturbateurs avec exclusion automatique de la classe ». Mais pour le chercheur Julien Garrick, c'est une idéologie. L'exclusion de cours, c'était le sujet de sa thèse. Et pour lui, l'exclusion de cours, c'est même un symptôme de la routinisation d'une violence éducative ordinaire.
Chloé, si la pratique se banalise comme ce chercheur le montre, est-ce au point de mettre en péril l'égalité à l'école ?
Oui, Julien Garrick parle même de tri social pris en charge par l'éducation nationale. Le chercheur renouvelle la sociologie de l'éducation en tenant ensemble à la fois la production de Doxa, la réalité concrète, tangible, sur le terrain, et une tendance de fond qu'on pourrait croire déconnectée de cette question des punitions du petit quotidien, le décrochage d'une partie de la population des élèves. Totalement inefficace, contre-productive même, pour lui, ces exclusions sont loin de résoudre les désordres scolaires. Elles y participe, mais ce qu'on comprend surtout en le lisant, c'est que cette pratique qui met à l'écart les élèves non conformes, eh bien, elle favorise le décrochage scolaire. Garrick a fait paraître un ouvrage empirique en 2024 au PUF, la fabrique quotidienne du décrochage scolaire. Et c'est ça le grand résultat de Julien Garrick. Après 2 ans de terrain en REP+, pour travailler empiriquement sur la fabrique quotidienne du décrochage, sur son terrain d'enquête, 55% des habitants vivaient sous le seuil de pauvreté, 90% des élèves étaient boursiers. Eh bien, au final, on voit que les élèves perdent beaucoup en termes d'égalité d'accès à l'école avec ces punitions. Et ils y perdent finalement d'autant plus qu'ils sont déjà issus des milieux précaires, dans des établissements précaires. Or, c'est là, en France, qu'on pratique le plus grand nombre d'exclusions de cours.
Chloé Leprince, merci. Et le risque élevé de décrochage scolaire, cela concerne 21% des élèves, selon un baromètre de l'association École Huma, financée par la Fondation de France. Ce chiffre est stable, mais il monte à 33% en lycée professionnel et 30% aussi pour les enfants d'ouvriers en lycée général, contre 1% des élèves issus des classes supérieures. Cela fait une semaine maintenant que François Bayrou multiplie les interventions médiatiques pour tenter de sauver son bail à Matignon, au risque parfois de fâcher les partenaires européens de la France. Exemple, hier soir, sur les 4 chaînes d'information en continu, le Premier ministre a répété qu'il n'était pas favorable à la taxe Zucman pour enflouer les caisses de l'État, cette taxe de 2% sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros. Car selon François Bayrou, les grandes fortunes françaises s'exileraient pour s'installer notamment en Italie, un pays qu'il accuse de pratiquer le dumping fiscal. On retrouve à Rome Bruno Duvic, bonsoir.
Bonsoir.
Bruno, la première ministre italienne, Giorgia Meloni, n'a pas apprécié, elle a répondu sèchement à son homologue français.
Alors, François Bayrou faisait référence à 2 dispositifs, un abattement de 50% pour les travailleurs hautement qualifiés qui s'installent en Italie et surtout un forfait fiscal très intéressant pour les plus fortunés. Selon le journal La Stampa, le nombre de millionnaires a augmenté de 20% en Italie ces 10 dernières années. Mais à Rome, en effet, on a pris la remarque de Matignon comme une mauvaise grâce de la France, rattrapée par sa voisine sur une série d'indicateurs économiques. Giorgia Meloni a très rapidement dégainé un communiqué. Les affirmations du Premier ministre sont stupéfiantes et totalement infondées. L'économie italienne est attractive grâce à la stabilité et la crédibilité de notre nation. Énième bisbille, les relations sont sur courant alternatif entre Emmanuel Macron et la dirigeante italienne. Et même si les deux pays sont des partenaires de premier plan, des chicaneries régulières éclatent entre les deux capitales depuis 3 ans, alimentées par la presse italienne qui donne beaucoup d'importance à l'affaire du jour. Il y a 10 jours, Paris a signifié à l'ambassadrice italienne le ras-le-bol de l'Élysée face aux attaques répétées contre Emmanuel Macron de la part du vice-premier ministre Salvini, un proche de Marine Le Pen. Le principal différend du moment porte sur l'envoi de troupes européennes après une éventuelle paix en Ukraine. La France pour, l'Italie contre. Selon la presse transalpine, Giorgia Meloni devrait suivre à distance seulement la prochaine réunion de la coalition des volontaires.
Bruno Duvic en direct de Rome, merci. François Bayrou qui débute aujourd'hui ses consultations avec les chefs des partis politiques, une semaine maintenant avant le vote de confiance à l'Assemblée. Premier reçu à Matignon en ce moment, Fabien Roussel, le patron du Parti communiste. Rappelons que la France insoumise et les écologistes ont refusé l'invitation du Premier ministre pour le coordinateur national de LFI, Manuel Bompard. Pas question de participer à l'opération sauvetage de François Bayrou. WhatsApp, Signal ou Telegram, c'est fini pour les fonctionnaires qui travaillent pour le gouvernement. À partir d'aujourd'hui, les agents des ministères devront utiliser Chap, une messagerie sécurisée à la française. Un changement qui fait suite à une circulaire publiée le 25 juillet dernier, qui rappelle que les messageries classiques ne sont pas dénuées de failles de sécurité et qu'il faut donc renforcer la sécurité des communications. Mais ce qui se joue ici, Pierre Roper, c'est aussi la question de la souveraineté numérique française.
Oui, Chap, c'est une application créée par la DINUM, la Direction interministérielle du numérique, et qui doit permettre aux agents de l'État de communiquer particulièrement entre les ministères de manière sécurisée. Alors Chap n'est pas un projet nouveau, sa création remonte à 2018 en réaction notamment au Cloud Act américain qui impose aux entreprises des États-Unis de fournir des données, même stockées à l'étranger, aux autorités judiciaires. Il fallait dès lors créer une application souveraine pour se protéger d'une possible ingérence américaine. Après des débuts difficiles qui ont nécessité de corriger des failles de sécurité, Chap a donc été adopté en 2021 durant la pandémie de Covid-19, passant de quelques milliers d'utilisateurs à plus de 260 000. Mais depuis, l'élan s'est essoufflé et l'application n'a pas trouvé son public. Alors pourquoi une circulaire aujourd'hui ? Eh bien, en 2025, le retour de Donald Trump à la tête des États-Unis a ravivé les craintes que la France avait déjà en 2019. À l'heure où le président américain ne se prive pas d'attaquer les réglementations de l'Union européenne, notre pays est trop dépendant des services numérique américain. Une crainte à laquelle s'ajoutent depuis plusieurs mois des risques accrus de cyberattaques, souvent attribués à des groupes pro-russes. La question reste désormais de savoir si les administrés feront la transition, car l'application reste moins ergonomique ou pratique jusqu'ici que des outils bien établis, comme Signal par exemple. Le gouvernement espère néanmoins convaincre jusqu'à 1 million d'agents de rejoindre la plateforme, à charge pour les ministères de faire appliquer la circulaire.
Explication signée Pierre Roper. C'est la fin de la grève à Radio France. Cette grève contre plusieurs réformes voulues par la présidente du groupe, Sybille Veil, et qui a perturbé la rentrée, y compris, vous avez pu l'entendre sur l'antenne de France Culture. Après un mouvement qui aura duré 8 jours, l'intersyndicale vient de signer un protocole d'accord. La direction de Radio France promet notamment la mise en place d'ateliers avec les salariés des locales, les ex-France Bleu, rebaptisés ici, sur la place des programmes de proximité. Les syndicats affirment aussi avoir obtenu un droit de regard sur la stratégie éditoriale et la direction de Radio France s'est engagée à ne pas réduire les moyens des chaînes cette saison, quelles que soient les contraintes budgétaires. La Russie a-t-elle décidé de perturber les déplacements en avion d'Ursula von der Leyen ? En tout cas, l'appareil à bord duquel voyageait la présidente de la Commission européenne hier a été victime d'un brouillage GPS à son arrivée en Bulgarie. La Commission soupçonne les Russes d'être derrière cet incident, Pierre Benazé.
Dans le sud de la Bulgarie, l'avion d'Ursula von der Leyen a pu atterrir comme prévu à Plovdiv, le chef-lieu de la Thrace septentrionale. Mais au moment de l'approche finale de l'aéroport, le signal GPS de son avion a disparu des écrans radars de la tour de contrôle. Le pilote a pu atterrir sans encombre, mais en utilisant les autres techniques à sa disposition, cartes papier, atterrissage ILS aux instruments ou radiophare d'alignement de la piste, par exemple. Les autorités bulgares ont signalé à la Commission européenne que tous leurs soupçons portent, je cite, sur une interférence flagrante de la Russie. Ariana Podesta, porte-parole de la Commission européenne.
Nous sommes bien sûr conscients et quelque peu habitués aux menaces et intimidations qui font partie intégrante du comportement hostile de la Russie. Bien sûr, cela ne fera qu'amplifier davantage notre engagement inébranlable à renforcer les capacités de défense et le soutien à l'Ukraine. Cet incident souligne en fait l'urgence de la mission que la présidente mène dans les États membres en première ligne.
La présidente de la Commission européenne a pu ensuite continuer sa tournée vers la Lituanie, mais cet incident relance une préoccupation déjà exprimée en juin lorsque 13 États membres de l'UE ont tiré le signal d'alarme dans une lettre envoyée à la Commission. De la Finlande jusqu'à Chypre, 13 pays frontaliers ou proches de la Russie demandent un plan d'action de l'UE contre les brouillages russes qui perturbent la navigation aérienne et maritime.
Pierre Benazé, correspondant à Bruxelles. La France se réunira jeudi à Paris, la coalition des volontaires, ces pays susceptibles d'apporter des garanties sécuritaires à l'Ukraine en cas de cessez-le-feu. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky devrait participer à cette réunion qui sera coprésidée par Emmanuel Macron et le premier ministre britannique Keir Starmer. Aujourd'hui, 1er septembre, plus de 270 médias dans le monde ont choisi d'exprimer leur soutien aux journalistes palestiniens alors qu'Israël intensifie ses opérations militaires autour de la ville de Gaza. Parmi ces médias qui ont répondu à l'appel de RSF, on trouve deux entreprises de presse israéliennes, Plus 972 et Local Call. Une décision qui peut surprendre dans le contexte israélien. Amira Swilem a pu s'entretenir avec une journaliste de Local Call, un média en ligne israélien.
Quand Reporters sans frontières a proposé à Local Call de participer à la journée de solidarité avec les journalistes palestiniens, l'équipe éditoriale basée à Tel Aviv n'a pas hésité une seule seconde. Ce site d'information en hébreu se démarque par sa claire opposition à la guerre à Gaza.
On voulait montrer notre solidarité avec les journalistes incroyablement courageux et dévoués qui travaillent depuis Gaza. On voulait aussi montrer notre forte opposition aux horribles actes perpétrés en notre nom par notre gouvernement.
Alors que l'écrasante majorité des médias israéliens présentent les journalistes palestiniens tués comme des terroristes, les équipes de Local Call tentent, eux, à leur échelle, de protéger leurs confrères palestiniens.
On a publié l'enquête fouillée du journaliste Yuval Abraham au sujet du consensus à l'intérieur des services de renseignement israéliens qui vise à légitimer le meurtre de journalistes palestiniens. L'idée, c'est de trouver des informations permettant de les relier à des groupes militants.
Une enquête qui a eu un retentissement mondial. Ce site d'information israélien s'est aussi démarqué par son choix engagé de donner à lire à ses lecteurs des articles de journalistes palestiniens traduits en hébreu.
En Afghanistan, le bilan du séisme qui a frappé l'est du pays ces dernières heures ne cesse de s'alourdir. Au moins 800 morts et plus de 2700 blessés après la secousse de magnitude 6 suivie de plusieurs répliques. Les populations locales manquent de tout car le tremblement de terre a frappé des zones reculées et le régime taliban au pouvoir à Kaboul rend difficile, voire impossible, une aide étrangère d'ampleur. On fait le point avec Virginie Pironon.
Des routes impraticables dans des zones très escarpées. Les secouristes mettent des heures avant d'atteindre les villages à pied. Il faudra même probablement plusieurs jours pour certains. Kristina Jovanovska est directrice adjointe de l'ONG CARE en Afghanistan, une des rares organisations à être restée dans le pays depuis le retour des talibans au pouvoir il y a 4 ans.
Les familles touchées ont besoin d'aide élémentaire, des abris, de la nourriture, de l'eau potable et une aide médicale. Les familles pauvres en particulier risquent d'être touchées par des maladies. Les femmes et les filles sont les plus exposées à cause du manque d'intimité et de leur liberté de mouvement très limitée.
Une crise qui s'ajoute à celle notamment du retour de nombreux Afghans chassés récemment du Pakistan et d'Iran, ainsi qu'à la sécheresse.
Ce tremblement de terre a frappé un pays qui souffre déjà d'un manque de soutien face à une grave crise humanitaire. Comme vous le savez peut-être, la moitié de la population afghane, 23 millions de personnes, dépend déjà de l'aide humanitaire. Or, ces besoins ne sont couverts aujourd'hui qu'à hauteur de 30% seulement.
Kristina Jovanovska insiste, il faut agir le plus vite possible, dit-elle. Dans certains villages de la province de Kunar, la plus touchée, personne ne se risque à établir de bilan humain.
En Espagne, la terrible vague d'incendie qui a brûlé plus de 400 000 hectares cet été est officiellement terminée. C'est ce qu'a annoncé hier la directrice nationale de la protection civile espagnole. Le moment pour les autorités espagnoles d'examiner les raisons de l'échec pour prévenir et éteindre ces feux. Le chef du gouvernement, le socialiste Pedro Sanchez, dit vouloir lancer un grand pacte national. Mais l'initiative semble déjà tuée dans l'œuf par les divisions politiques qui paralysent le pays, Mathieu de Taillac.
Au premier jour de la rentrée, les responsables politiques sont revenus à leur division. Le leader de l'opposition de droite dévoilait ses propres propositions, Alberto Núñez Feijóo.
Nous proposons de créer un fichier national des pyromanes. Cela supposera l'obligation pour les personnes condamnées de porter un bracelet électronique de localisation.
Une analyse diamétralement opposée à celle que fait le président du gouvernement. Pedro Sanchez a fait le diagnostic de la terrible vague d'incendie.
No es fruto de la casualidad.
Ce n'est pas le fruit du hasard ni d'une organisation de pyromanes.
Seamos serios.
Soyons sérieux, soyons rigoureux. Nous avons une politique de prévention des incendies clairement insuffisante. La gestion du territoire ne convient pas non plus. Enfin, c'est une crise climatique qui fait que les incendies d'aujourd'hui sont beaucoup plus virulents.
De ahora sean mucho más virulentos.
Les régions, majoritairement à droite, rejettent la responsabilité sur le gouvernement de gauche et vice-versa. Pendant ce temps, un parti qui pratique le déni du changement climatique se frotte les mains. Vox, d'extrême droite, a franchi les 15% d'intention de vote dans un sondage publié ce matin par le journal El Mundo.
Mathieu de Taillac, correspondant à Madrid. Incendie en Espagne et chaleur historique au Royaume-Uni. Les Britanniques ont connu cette année leur été le plus chaud jamais enregistré depuis le début des relevés en 1884. Une température moyenne de 16,1 degrés entre le 1er juin et le 31 août. Le Japon et la Corée du Sud ont aussi annoncé aujourd'hui leur été le plus chaud jamais enregistré. Le temps demain en France. La vague orageuse devrait quitter les départements du Sud-Est placés en vigilance orange. Aujourd'hui, le soleil sera de retour sur le pourtour méditerranéen. Sur les autres régions, en revanche, le ciel sera souvent gris et pluvieux. Les températures minimales iront de 9 à 18 degrés du nord au sud. L'après-midi, il fera entre 19 et 28 degrés en général. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun. À la technique, il y avait Élise Leu.